Dans ce nouveau numéro de Christian et compagnie, on est à la rencontre de Florian Rocha. Florian et son épouse Catherine exercent un ministère pastoral et organisent des séminaires, ou plutôt, devrais-je dire, des sessions, méditations et ressourcement spirituel. Méditation, le terme a aiguillé ma curiosité. Qu'en est-il de ce sujet, à mon sens, connoté négativement dans le milieu évangélique protestant? On le retrouve sans tarder.
Alors, l'idée, nous, c'était parti vraiment d'une sorte de souffrance au départ, de se dire, mais des artistes, des hommes d'affaires, des entrepreneurs dans différents domaines de notre société qui courent, ont des fois de la peine à prendre un temps d'arrêt, ou alors tout d'un coup, c'est la mode hein, aujourd'hui, c'est la grande mode d'aller faire un temps de jeûne, d'aller faire un temps de méditation, d'aller dans une abbaye, se retirer 3 jours, voilà. Et on s'est dit, mais c'est dommage que des gens puissent faire une démarche comme ça, et au fond, revenir un peu, bon, ça leur a fait du bien, ça c'est sûr, mais un peu comme ils étaient partis et on se replonge dans le stress. Donc il nous semble qu'il est important que ces personnes-là puissent faire une rencontre, une expérience, plus que simplement le bienfait du jeûne, du silence, de la beauté des lieux, etc. Mais de rencontrer réellement, ou faire en tout cas une expérience ou un premier pas de relation avec la puissance du Saint-Esprit. Et donc on s'est dit, mais ces gens, voilà, il n'y a pas que dans le bouddhisme où il n'y a pas, il nous semble même qu'il y a des dangers du côté de certaines propositions mystiques ou ésotériques, voire occultes. Donc on s'est dit, c'est un peu une souffrance, parce que dans notre héritage judéo-chrétien, nous avons des gestes à poser, des attitudes à avoir, comme le pardon, la réconciliation, le silence, l'onction des malades, la rencontre, la pratique, la présence du Saint-Esprit, etc., qui est guérissante, qui est libératrice, et donc il faut qu'on puisse le proposer hors cadre habituel d'une église ou d'un cours paroissial. Donc on a sélectionné certains lieux qui nous semblent importants, comme les îles de l'Hérens, comme la montagne, les Alpes, le Pays de Galles, etc., pour que dans un lieu propice, nous puissions vraiment proposer à des gens cette réflexion, cette méditation, cette expérience avec le Saint-Esprit de rencontre. Donc c'est parti de cette idée-là.
Ouais. Comment c'est reçu quand vous proposez ça dans les milieux donc évangéliques, hein, protestants?
Alors, je pense que quand on nous connaît, et qu'on voit la base théologique qu'il y a là derrière, il y a non seulement une acceptation, une ouverture, il y a même une joie en disant c'est un produit qui manquait, on a besoin de ça, c'est super, on encourage. Quand on nous connaît pas du tout, quand on voit une petite carte de visite avec un arabesque oriental, quand on entend méditation, silence, il y a une certaine crainte, une certaine méfiance, c'est sûr.
Oui, oui, parce que ça a une connotation, la méditation, on associe ça aux religions orientales en fait.
On a tout de suite dans la tête, quand on dit à quelqu'un « méditation », on continue la phrase, il va dire « méditation transcendantale ».
Oui, oui, on pense tout de suite à ça. On pense au lacet.
Il faut absolument sortir de ça et revenir à une méditation chrétienne, une pratique de la présence de Dieu, qui est vraiment proposée et dans l'origine même du christianisme.
Ouais. On nous a appris, moi je sais qu'on m'a appris en fait que c'était du lâcher prise et qu'il ne fallait pas lâcher prise, il fallait être conscient, dans un état conscient de ce qu'on faisait, qu'il fallait être... Voilà, donc il y a une certaine défiance vis-à-vis de ces mouvements de méditation.
Et vous parlez du lâcher prise, là encore maintenant dans les milieux protestants évangéliques, on aura de nouveau avec la relation d'aide, tout ça, on parlera peut-être de lâcher prise, mais c'est surtout le problème aussi du vide intérieur. C'est-à-dire qu'on dit, il ne faut pas se vider parce que des esprits mauvais même
voilà,
peuvent venir,
etc.
Alors que là, justement, bien sûr, si on s'ouvre pour s'ouvrir, c'est aussi pour ça qu'on dit que tout un tas de personnes qui sont intéressées à la spiritualité peuvent s'ouvrir à toutes sortes de choses. Alors que nous voulons nous ouvrir, effectivement, nous voulons aussi lâcher prise, nous voulons aussi nous mettre en présence de la divinité, mais pour accueillir la présence de l'Esprit-Saint.
Oui.
C'est vraiment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes rassemblés, je le dis dans le groupe, et j'encourage les gens à s'ouvrir à cet Esprit-Saint et de voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est clairement trinitaire, c'est clairement basé sur le texte biblique. Mais après, alors, c'est pas du tout un discours religieux, c'est pas du tout une pratique classique d'église, c'est pas une réunion de prière, c'est pas une étude biblique, c'est vraiment faire vivre le texte biblique, c'est y entrer. Un petit exemple, par exemple, on va lire le récit d'un aveugle qui est guéri par Jésus, et on va se concentrer sur l'aspect que, pour aller à Jésus, il a lâché son manteau. Donc on va inviter chacun, croyant, non-croyant, laïc, catholique, évangélique, n'importe.
Oui,
on est tous mi-devant-sept. On dit, qu'est-ce que c'est? On va prendre un temps de silence, on va réfléchir, on va écouter le Saint-Esprit aussi, qui va nous parler de ce manteau à lâcher. Qu'est-ce qui est là dans nos vies, qui encombre, qui nous retient, etc., etc. Et puis, on invite les gens à oser une parole aussi. Alors, on fait pas de grands discours, on laisse la parole aux gens. Et il y a des choses extraordinaires qui sortent. Et après, on va continuer ça, on va peut-être dire ce texte à haute voix ou une partie du texte, on va le relire ensemble, on va le laisser descendre en nous pendant une heure ou deux. Et après, il va se passer des choses assez extraordinaires.
Alors, la tradition nous a laissé des exemples de personnes qui ont médité. Est-ce qu'on a des fondements bibliques de cela, la méditation?
Alors, je pense qu'on a des fondements bibliques pour le fait de s'arrêter, de prendre du temps. On a des fondements bibliques pour... je disais souvent les questions des psaumes. Hein, la psaume, c'est souvent une répétition, c'est souvent une mise en présence de Dieu avec même toute une liturgie, des chœurs, des chants. Ça touche les sentiments, ça touche l'âme. Et c'est ce qu'on vit en plus petit, en petit groupe, etc. C'est aussi toucher l'âme, toucher les émotions. Tout ça doit être évangélisé. Tout ça, Simone Paco, qui est catholique, mais qui a écrit un livre qui est très intéressant dans son titre, c'est l'évangélisation des profondeurs. C'est quelque chose comme ça qu'on a envie de vivre et qui nous semble profondément biblique, même s'il n'y a pas un texte biblique qui va dire tu méditeras trois fois par jour. C'est l'ensemble de la révélation du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est l'ensemble de la révélation biblique qui nous montre combien c'est important, ne serait-ce que par exemple dans l'Ancien Testament, toutes les fois où il est répété tu méditeras la loi. Tu méditeras la loi. Tu en parleras à tes enfants quand tu seras en voyage, quand tu seras le matin, quand tu te coucheras, que tu te lèveras. Ça montre que c'est une parole qui n'est pas juste à enseigner de manière docte, intellectuelle. C'est quelque chose qui doit être dans le vécu, dans la pratique, qui doit descendre en nous, qui doit féconder nos vies.
Oui, on doit être imprégné de cette parole.
Exactement. Le mot imprégné est tout à fait juste. Et je disais aussi par rapport à la vie de Jésus. On voit que Jésus, il avait ses temps d'arrêt, ses temps de prière et d'écoute dans les nuits où il se retirait pour écouter, entendre. Au fond, méditer, c'est écouter. C'est vraiment laisser la parole de vie, c'est laisser l'esprit de vie travailler en nous plutôt que nous inonder le temps de prière ou le temps de réflexion personnelle, de parole ou de remplir notre intellect par une étude biblique.
Oui. Ça vient de quoi le fait qu'on ait rejeté donc cette dimension?
Alors je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est notre peur à cause des excès. Mais ça serait alors aussi bête que de dire on va plus prier pour les malades parce qu'il y a un tas de guérisseurs, de rebouteux ou de magiciens de tout acabit. Alors nous on va se dessaisir de ça parce qu'il y a des contrefaçons ou des choses limites. Donc bien sûr qu'il y a des méditations, bien sûr qu'il y a des dévoiements à cela, où il y a des excès, mais c'est pas pour ça qu'on doit abandonner le terrain. Puis la deuxième chose, je pense qui est plus forte encore ancrée en nous, c'est que ça fait peur.
Ah oui.
Ça fait peur parce que c'est authentique, parce que c'est profond. Avoir un discours sur un texte biblique qui est de type étude biblique intellectuelle, c'est très intéressant. Mais j'ai absolument rien contre, et je pense que c'est juste. Il y a des docteurs de la parole qui enseignaient tout ça. Mais une proposition de méditation, de se laisser rencontrer, bousculer, changer, transformer par cette parole de la Bible, va beaucoup plus loin, elle va beaucoup plus me remettre en question qu'un discours sur la Bible. Intercéder, même si on peut, excusez-moi juste pour ajouter, parce que je voudrais pas dire que sur le texte biblique au niveau intellectuel, même une prière. Si j'ai une rencontre de prière où je dis tous mes sujets à Dieu et que je suis un grand intercesseur avec tout un tas d'informations, c'est bien, très bien, Dieu nous dit de prier sans cesse, etc. Mais c'est autre chose que d'écouter ce qu'il aimerait par mon esprit prier en moi.
Et il y a aussi cette dimension, ce fait que se retrouver face à soi-même, ça peut être dérangeant pour les gens.
Tout à fait. Ça engage beaucoup plus. Et puis la nature a horreur du vide, on a peur du silence.
Mais oui.
Peut-être que tout un tas de choses remontent en nous à ce moment-là. Il y a mille raisons pour avoir peur de cet espace-là.
Oui, on comprend que ça peut mettre mal à l'aise aussi. Absolument. Et que c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir.
Si je sais, que ce soit dans la prière ou dans le discours biblique ou spirituel, je répète ce que je sais. Si je médite, si j'écoute, si je fais silence, c'est peut-être quelque chose d'autre que ce que je crois savoir comme vérité, ce que je crois être et que j'ai toujours répété, qui peut venir.
C'est une grande richesse, en fait, dont on se prive.
Je crois, et moi je suis merveilleusement réjoui et impressionné de voir que quand on se met comme ça ensemble dans un groupe, dans cette attitude, on se retrouve un peu tous au même plan, vous voyez, il n'y a pas les théologiens ou ceux qui ont 30 ans d'expérience avec Dieu, etc., et puis les autres à qui on va apprendre des choses. Non, on est ensemble, et des fois, le dernier arrivé, ou le plus petit, ou le plus tremblant, peut dire une phrase. Il n'a pas de discours à dire, mais il a des émotions, il a quelque chose qu'il reçoit et Dieu parle. Et ça peut bouleverser celui qui a le plus de connaissances bibliques ou qui connaît le grec et l'hébreu dans le groupe. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Donc, on peut peut-être rappeler que vous organisez donc des sessions méditation et ressourcement spirituel. Et là, en l'occurrence, donc au mois d'octobre 2019, il y a quelque chose qui est organisé dans les Alpes suisses. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Tout à fait. Alors, du 21 au 24 octobre, c'était très court, hein, c'est 4 jours. On a réservé un très beau chalet de bois suisse dans les Alpes, où nous pourrons être là avec une petite équipe cuisine qui nous concoctera de bons petits plats, avec quelqu'un qui est plus dans la louange, quelques chants comme ça qui peuvent nous toucher. Et puis, j'animerai donc des sessions avec une petite équipe aussi à disposition pastorale pour des entretiens. J'animerai cette session donc du 21 au 24 octobre. Et toutes les informations sont sur le site sessionressourcement.com. Tout attaché, sessionressourcement.com.
Une dernière question, Florian. Les retours que vous avez de ces sessions, vous en avez déjà, je pense. Hein, ça fait déjà plusieurs fois que...
Site. Alors, comme je disais, d'abord, on démarre, hein, puisqu'on n'a que 3. Sur le site, il y a déjà quelques témoignages
de personnes
qui ont été touchées, qui ont apprécié, qui ont été bouleversées. Et ce que j'aimerais juste ajouter, si vous le permettez, c'est que j'encourage vraiment des personnes qui seraient disposées, qui verraient l'opportunité de cette proposition, c'est de venir avec un ami ou une amie qui est en recherche spirituelle. Les hommes et les femmes en recherche spirituelle auront peut-être une difficulté sans nous connaître, sans connaître cette démarche, auront peut-être une difficulté à s'inscrire tout seul, mais ceux et celles qui peuvent nous connaître ou avoir confiance dans ce qu'on propose, qui connaissent déjà un peu ça, venir avec un ami ou une amie, ou pourquoi pas écrire, proposer à un collègue, à un chef d'entreprise, à un artiste qu'il aime bien, proposer ces 3, 4 jours, 5 jours sur une île ou dans la montagne.
Merci Florian. Je rappelle que vous êtes donc pasteur avec votre épouse Catherine.
Hein. Dans le Jura, à Saône-et-Loire.
Merci à vous Florian.
Au revoir, bonne journée.
Merci. Si vous souhaitez prolonger cette émission, un site internet et en ligne ressourcement.com. Une deuxième émission est en cours de préparation où nous évoquerons plus longuement ces séjours organisés par Florian et son épouse. Christian et compagnie, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.